Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, un genre trop souvent négligé par notre équipe et qui pourtant mérite toute notre attention. D'autant plus qu'il a été récemment énormément mis à l'honneur par nos éditeurs préférés. Je veux bien sûr parler de la comédie. Nous aborderons aujourd'hui quelques classiques parus chez Éléphant de Film, tels que Sherlock Junior, La croisière du Navigator, Les fiancés en folie et Le dernier round de et avec Buster Keaton. Nous remonterons le temps avec Les voisins de John J. Alvitson, réalisateur du fameux Rocky, un film avec le tandem des Blues Brothers, Dan Aykroyd et James Belushi. Il y aura aussi Une baraque à tout casser avec Tom Hanks, le film culte de Karl Reiner, avec Steve Martin, Les cadavres ne portent pas de costard. Et enfin, deux films qui flirtent avec le genre de manière étonnante, Mad Dog and Glory de John McNaughton et Comme un oiseau sur la branche de John Badham, récemment sorti chez Rimini.
Pour empêcher le ciel de tomber, nos ancêtres, les Gaulois, brûlent la ville à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, Dieu les Gaulois. Les Gaulois inventèrent le tabac, et c'est grâce à ce truc-là qu'ils se fendaient la pipe à tout de bois. Nos ancêtres, les Gaulois, eurent le tort d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Pour parler humour, je suis accompagné d'une personne qui a le sens de l'humour. C'est nécessaire pour parler de comédie, voilà. Je veux bien sûr parler de celui qui est surnommé la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée, dont le nom véritable, et oui, je le révèle, est Damien Demey. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Damien, toi qui es jeune, fort, musclé, Toi qui, lorsque tu écumes les plages, les hommes et les femmes se retournent sur ton passage. En gros, toi qui as la moitié de mon âge, voilà, tu n'as pas connu les joies et bonheurs à la télévision, qui était petite en 4 tiers et en noir et blanc, et qui était, comment dire, qui pesait à peu près 20 kilos, et qui avait une largeur d'à peu près, je ne parle pas de l'écran, hein, je parle de la profondeur de la télévision, c'est un gros cube en fait, avec une largeur de bien 50 cm, voilà, tu pouvais pas la coller au mur, hein, comme on fait maintenant. Donc tu n'as pas connu la joie et le bonheur des programmes qui étaient alors diffusés à la télévision, qui étaient quand même, pas toujours très folichons. Et au milieu de tous ces programmes, il y avait parfois, des petites pastilles humoristiques. Tout à coup, on était alors sur Antenne 2, une chaîne qui n'existe plus, puisque maintenant on dit France 2. Sur Antenne 2, on diffusait parfois comme ça des pastilles humoristiques, c'est-à-dire des courts-métrages d'époque. Des courts-métrages où régnait en maître le slapstick, le sens du rythme des courts-métrages muets, mis en musique, évidemment. Et dans ces courts-métrages, il y avait du Harold Lloyd. Voilà, alors Harold Lloyd, du coup, moi j'étais fan avec ce fameux Harold Lloyd qui s'accroche à la pendule, hein, qui était un peu mon film fétiche. Alors, il faut dire que ça repassait tout le temps à peu près les mêmes. Donc, du coup, je les connaissais bien. Et le principe des enfants, on le sait, pour tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui ont regardé La Reine des Neiges, c'est de regarder à peu près 2000 fois le même film pour connaître les paroles de cette saloperie de chanson par cœur. Voilà. Donc, ceux qui connaissent ça savent de quoi je parle. Voilà. Et donc, j'ai vu ça plein de fois. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Et j'aimais aussi beaucoup, évidemment, Charlie Chaplin, voilà, que je trouvais vraiment assez fascinante. Dès tout petit, j'ai été fasciné par les temps modernes, par exemple. Je suis toujours fasciné par le film aujourd'hui sur ce qu'il dit de la société et du capitalisme. Mais à l'époque, l'industrialisation, à l'époque, c'était autre chose. C'était Charlot, il me faisait rire. C'était pour moi quelque chose, ce sens du rythme, cette manière de ce corps dégingandé qui se prêtait à toutes les souffrances quelque part, hein, qu'on pouvait balaxer et tirer dans tous les sens, ça me fascinait. Et puis il y avait un troisième larron, c'était Buster Keaton. Ah oui, Buster Keaton qui, je me rappelle, courait, se prenait des maisons sur la tronche, voilà, a toujours des trucs qui s'envolaient dans des tempêtes incroyables, voilà. Je connaissais pas le mot à l'époque, mais ça me faisait triper, quoi. Voilà, je restais scotché devant mon écran. Alors pourquoi je vous raconte ma vie dont vous n'avez strictement rien à faire, hein, voilà, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que j'ai retrouvé ce plaisir, là, grâce à Elephant Film, qui a sorti toute une série de films d'Harold Lloyd, parmi ses meilleurs. On va débuter avec Sherlock Junior, hein, qui date de 1900. De 1924, où un projectionniste rêve, et tout à coup son rêve s'immisce comme ça dans ses pensées, mais donc s'immisce à l'écran, et on a un film dans le film. Voilà, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. En 1924, le film dans le film, je suis pas sûr que c'est peut-être bien une des premières fois que ça se pratique. En tout cas, on a un film dans le film, et du coup, Buster Keaton signe une grande déclaration, en fait, une déclaration d'amour au 7e art. Alors, le film s'ouvre sur un intertitre avec un avertissement, hein, le carton dit « Don't try to do two things at once and expect to do justice to both ». Je prononce super bien, hein, que tu vas traduire, Damien.
N'essayez pas de faire deux choses à la fois et de rendre justice aux deux.
Bah, c'est un peu ça, voilà, Damien. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un film qui joue sur la dualité. Il y a cette dualité, c'est-à-dire il y a ce film dans le film, et il y a donc une double narration comme ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Buster Keaton crée une mécanique, et le personnage se retrouve comme ça, pris dans son illusion, hein, pris dans cet imaginaire. Et la mécanique créée par Keaton, en fait, le prend quelque part en otage. Voilà, il devient prisonnier de son propre système. Et on est vraiment, je dis toujours moi que c'est le terme, comment dire, machine à rêve, le côté freudien, voilà, c'est parfaitement miscible dans le cinéma d'Hitchcock, par exemple, qui est une grande psychanalyse, il se dévoile énormément envers son public, Hitchcock, quand il fait des films. J'ai toujours que regarder un film d'Hitchcock, c'est comme aller chez un psychanalyste, mais quand même avec une énorme érection. C'est comme ça que je vois un peu les choses avec Hitchcock. Et bien là, on est un peu séparés dans une sorte de film humoristique freudien. C'est assez original. Alors évidemment, n'allez pas vous prendre la tête, hein. Voilà, ça c'est le côté analytique du film. Mais en fait, sinon, c'est juste, et c'est déjà très bien, un film très bien mis en scène, où en fait, on voit plein de scènes assez démentes. Je pense à, par exemple, c'est toujours très speed avec Keaton. Il traverse toujours l'écran d'un côté, d'un autre. Alors, on joue des fois de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite. Il y a toujours des trucs assez spectaculaires. Alors, on a une voiture qui devient un bateau, comme ça. Tout est fait en réel, en direct live devant la caméra. Et puis, il y a... Il y a une séquence assez culte, hein, c'est-à-dire c'est l'entrée du personnage dans l'écran, voilà, qui est quelque chose qu'on reverra après, des choses qui ont influencé par exemple John McTiernan sur Last Action Hero, voilà, ce genre de choses.
Yeah.
y a des moments assez dingues. Quoi. Par exemple, un moment, le personnage plonge la tête dans l'eau, dans la mer, et puis il ressort dans la neige. Enfin, il y a des moments comme ça. Il y a plein de moments comme ça. C'est très créatif. C'est très difficile de raconter un film de Buster Keaton, parce qu'en fin de compte, c'est une suite de... Comment dire c'est une suite de péripéties comme ça qui s'enchaînent. Mais là, en plus, il y a cette double narration avec... Alors, bien sûr, c'est Sherlock Junior. Donc, dans cette double narration, il y a l'idée aussi de comment on devient un détective, quoi. Hein, voilà. Et donc, Keaton ne donne pas vraiment la réponse, mais c'est pas grave, parce que quand le film est terminé... Alors, il est assez court, hein, ouais, 2-3 quarts d'heure. Mais quand le film est terminé, on est abasourdi, on est complètement séduit, voilà, par ce qu'on vient de voir. La même année, en 24, il fait un autre film qui est sorti aussi, là, qui s'appelle La Croisière du Navigator. Alors, c'est toujours pareil, il réalise, il joue dedans. Enfin voilà, c'est l'homme orchestre, hein, Buster Keaton, c'est comme Chaplin. Et donc là, c'est l'histoire d'un riche héritier qui est un peu naïf, qui est un peu qui a souvent la tête ailleurs, qui est un peu dans le zig ou dans le zag, ça dépend de votre humeur, voilà, comment vous voyez les choses, et qui se retrouve sur un gros bateau, un paquebot, là, qui dérive, voilà, qui est emporté à la dérive, et puis dans ce bateau, il n'y a personne. Il n'y a personne, sauf une jeune femme. Voilà. Et cette jeune femme, il se trouve qu'elle a refusé sa demande en mariage. Donc, à partir de là, commence donc une grande traversée, et les deux personnages vont apprendre à se connaître. Voilà, totalement dans le... Comment dire, dans ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire dans la grande maîtrise, alors à la fois de ce corps qu'on malaxe dans tous les sens, grande maîtrise du cadre, des effets spéciaux en direct. Et celui-ci est considéré, avec le mécano de la générale, comme son meilleur film. La Croisière du Navigator. Et c'est effectivement... déjà, ça dure 1h05. Et c'est 1h05 de cascade, parce que lui, c'est un cascadeur aussi, Keaton. Hein, voilà, il se contorsionne dans tous les sens. On avait parlé de Keaton il n'y a pas très longtemps dans l'émission pour Nos Films. Voilà, film Nos Films, qui était paru chez Carlotta. Et là, on retrouve... C'est toujours cette même face, hein, de Keaton, qui est un peu l'homme qui ne sourit jamais, une sorte de figure comme ça gravée dans le marbre, avec un petit côté même un peu triste. On retrouve vraiment ça, il s'en sert là, dans ce film où c'est un peu deux incompris et deux incapables qui se retrouvent dans un très grand décor qui va leur réserver plein de surprises. Et en plus, il y a un petit côté satirique parce que ce sont deux bourgeois en fait. Et ils sont incapables. En fait, c'est des incapables. C'est-à-dire qu'on a toujours tout fait pour eux. Voilà. Donc, ils ne savent pas faire du café. Bon, ils font du café avec de l'eau salée. Voilà. Ils sont infoutus, en fait, de faire... Il faut savoir rien faire de leurs 10 doigts parce que ce sont des oisifs. C'est les fameux oisifs de l'international. Hein, voilà. Hein. Je n'ai pas besoin de se faire... De vous faire un dessin. Alors, c'est vrai que comparé au précédent, qui durait 3 quarts d'heure, qui avait un gros rythme, celui-ci, 1h05, c'est peut-être un peu trop. Il y a quand même un petit coup de mou, je trouve, au mi-temps du film. Mais néanmoins, bah, je vous le conseille vivement. Toujours Buster Keaton, 1925, Les fiancés en folie. Alors là, c'est simple. Buster Keaton, il ne sait pas, il ne trouve pas pendant une année comment... se déclarait à Marie, la jeune femme qu'il aime. Et puis, un beau matin, advient la nouvelle, une somme importante d'argent va lui revenir parce qu'il hérite. Voilà, il hérite, il va avoir des sous, il va être riche. Mais il faut qu'il se marie avant 19h, le jour de son 27e anniversaire, évidemment. On est le jour de son 27e anniversaire. Et donc, il y a une course contre la montre qui s'engage, d'autant plus que quand il va voir Marie, elle prend très mal cette demande parce qu'elle se dit, mais... comme s'il avait besoin d'être riche pour que je l'épouse, en gros, quoi. Hein, voilà, elle trouve ça très grossier, très maladroit de sa part de dire « maintenant que je suis riche, tu peux m'épouser ». Et donc, du coup, maintenant, il faut qu'il trouve une femme. Donc, il se passe une annonce dans le journal, et c'est là. Et en même temps, il y a toujours cette Marie qui est derrière, voilà. Et là, s'engager, alors, comme dans les autres films dont on a parlé, c'est-à-dire... va s'engager une sorte de course contre la montre avec plein d'éléments qui vont se mettre en travers du parcours de notre héros. plein d'éléments de décor, mais aussi plein de malentendus, plein de choses. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, on n'aura pas beaucoup de temps de parler des autres films. Mais en tout cas, je vous le conseille vivement. Ainsi que, alors, le dernier film qui est édité, qui s'appelle Le Dernier Round, qui est un film de 26, c'est le moins bon quand même de la fournée là, de Buster Keaton, où dedans, Keaton est un fils de bonne famille qui est envoyé camper en montagne par son père, pour qu'il devienne dur, quoi, parce que bon, on devine qu'il est un peu faiblard. Mais en fait, le campement où il va est très très luxueux, donc c'est pas du tout difficile pour Buster Keaton. Et il tombe amoureux d'une montagnarde, mais évidemment, la famille n'aime pas du tout ce Buster Keaton qui a l'air trop fragile, pas du tout montagnard en fait, en vérité. Voilà, et du coup, comme il a le même nom qu'un célèbre boxeur, il décide de se faire passer pour ce boxeur. Voilà, pour se faire accepter de ces montagnards un peu plus rustiques, un peu plus costauds. Et donc, ça va donner un film, là, c'est pareil, un peu particulier, parce qu'il est, on va dire, depuis le début, je vous parle un peu de la mécanique mise en place par Buster Keaton. C'est peut-être son film le moins mécanique, c'est-à-dire le moins travaillé dans la science du gag et tout ça. Par contre, il y a une séquence de boxe finale qui, je trouve, est encore meilleure que celle de Charlot Boxer, en 1915, où on voit que Keaton donne de sa personne, et rien que pour ça, le film mérite d'être vu.
Je ne cherche jamais la querelle, je suis doux comme une tourterelle. Mais là, oh là, alors là, il y a eu un silence hostile. Les types n'aimaient pas mon style. Mes lunettes, mon chapeau, mon parapluie et mon museau. Alors j'ai enlevé mon chapeau, je me suis mis en tricot de peau. Je me suis mis en caleçon, j'ai dit messieurs, en position. Je n'ai de temps contre personne. J'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Je ne cherche jamais la querelle, je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, mais si l'on me marche sur la queue, oh là, oui là, alors là. Je ne suis pas un mauvais coucheur, mais si l'on parle pas bien de ma sœur, je me mets en caleçon, je dis messieurs, en position. Je n'ai de dents contre personne. J'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. Mais soudain le téléphone sonne, ma femme me demande en personne. J'entends sa douce voix qui me dit, donne le bonjour à tes amis. Je t'ai préparé des raviolis. Tu penses à ramener le pain, chérie. Il y a eu un silence de mort. J'ai remis mon tricot de corps. Nous reprendrons cela demain. Ce soir c'est rond. Nous donc la main. Je n'ai de temps contre personne. J'aime la boxe à l'anglo-saxonne. De temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. ne cherche jamais la querelle. Je suis doux comme une tourterelle. Mais de temps en temps une petite bagarre, c'est comme fumer un bon cigare. C'est comme fumer un bon cigare.
On a pris un peu de retard avec le confinement. On n'a pas pu traiter de tous les films dont on voulait parler. Et en termes de comédie, on a Elephant Film qui a sorti pas mal de choses et qui a sorti quelques raretés, en particulier concernant les années 80. Il y a Les Voisins, par exemple, Neighbors, de John J. Avildsen, et oui, le réalisateur de Rocky. Avec les Blues Brothers, hein, Dan Aykroyd et John Belushi, avec l'histoire d'un Américain moyen qui est peinard avec sa femme dans sa maison avec leur fille, voilà. Et puis dans cette banlieue de la classe moyenne, un jour ça change parce qu'il y a Vic et Ramona Zek qui viennent s'installer dans la maison d'à côté et ça rigole pas, c'est des sacrés numéros. Alors là, on inverse les rôles, John Belushi et Dan Aykroyd. Casse l'image qu'ils renvoient l'un de l'autre. Et cette fois-ci, c'est Belushi qui fera le type un peu coincé. Et puis, c'est Aykroyd qui fera le type complètement taré. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que c'est le réalisateur de Rocky qui réalise. Ce n'est pas vraiment un spécialiste de la comédie. Il se trouve que Dan Aykroyd et Belushi n'ont pas arrêté de remanier le scénario. Ils ont surtout essayé de faire virer Avildsen. Donc c'est à la fois un film, un film plutôt d'Aykroyd et Belushi. C'est un film de Saturday Night Live, en fait. Hein, voilà. Et beaucoup plus que de John J. Avildsen. Mais il faut savoir que John J. Avildsen n'a pas perdu tous ses combats, hein, parce que par exemple, normalement, la musique devait être faite par un pote à John Belushi, et puis Avildsen arrive à faire engager Bill Conti. Alors, vous savez, Bill Conti, c'est le compositeur de la fameuse musique de Rocky, voilà, ou des grosses têtes, c'est au choix, selon vos préférences culturelles. Voilà, moi je vais rester sur Rocky personnellement, voilà. Alors c'est pas un grand film. Mais déjà, c'est le plaisir de revoir les Blues Brothers ensemble. Et puis, c'est surtout le dernier film de Belushi. Donc, rien que pour ça, il faut le voir. Ensuite, l'année suivante, en 82, là, c'est pareil, c'est toujours chez Elephant Film. Alors, ce film, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, je vais vite passer dessus. On en a même déjà parlé dans l'émission il y a plusieurs saisons. C'est Les Cadavres ne portent pas de costard, de Karl Reiner. Réalisé par Karl Reiner, sorti en 82, donc je vous l'ai dit, avec Steve Martin, Rachel Ward, j'aime bien Rachel Ward, et puis Steve Martin me fait mourir de rire à chacune de ses apparitions. Et là, c'est simple, à la recherche de son père, une femme fait appel à un détective privé, et évidemment, ça donne une enquête assez hors norme, puisque Steve Martin va donner la réplique à Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Kirk Douglas, vous avez compris, c'est un gigantesque détournement, et il n'est pas nécessaire d'avoir forcément vu les films originaux, parce que là, il y a de tout, hein, Assurance sur la mort de Wilder, Le Poison de Wilder aussi, Les Tueurs de Sion Mac, vous trouvez de tout, Les Passagers de la Nuit, Dark Passage, d'Elmer Def, tout ça, enfin, il y a plein de classiques, je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'on en aurait pour l'ensemble de l'émission, mais je voulais quand même dire, il y a des gags assez incroyables, en particulier, je vous conseille la méthode qu'utilise Rachel Ward pour enlever des balles. Voilà, je vous conseille de voir le film. Vous allez comprendre. C'est assez bien foutu. On utilise bien un peu les clichés du film noir avec une voix off, tout ça. Enfin bon. Il faut reconnaître que Steve Martin a un certain talent comique qui est indéniable. Et que, on comprend mieux pourquoi Michel Hazanavicius a été totalement traumatisé par ce film de Karl Reiner, qui a quand même été formé. À la base, il faisait un duo pour la télé avec Mel Brooks, donc c'est quand même pas n'importe quoi, quand même. Mel Brooks, Frankenstein Junior, hein, je vous rappelle, Le Shérif est en prison, Les Producteurs, enfin, que du très bon. Et c'est aussi le père de Rob Reiner qui a quand même réalisé This is the Spinal Tap, qui est quand même un sommet de la comédie. Et le film est sorti quand même 11 ans avant la classe américaine. C'est juste histoire de dire pour ceux qui pensent que c'est Hazanavicius qui a inventé le détournement, mais non. C'est plutôt Karl Reiner avec ses cadavres qui ne portent pas de costard. Et alors, je vais terminer très vite par le film le moins intéressant de la salve, sorti chez Elephant Film. C'est Une Baraque à tout casser de 86, un film de Richard Benjamin avec Tom Hanks. dans lequel il vit avec sa femme, dont Chelle est longue. L'actrice, c'est pas sa vraie femme dans la vie, voilà. Qui sont contraints par le retour impromptu de leur propriétaire et ancien mari de Chelle est longue de libérer l'appartement qu'ils occupaient comme locataire. Et ils décident donc d'acheter une magnifique maison pour un prix défiant toute concurrence. Mais évidemment, les apparences sont trompeuses et cette maison doit être restaurée de fond en comble. Voilà, ça a aussi inspiré un autre film à Danny Boone, une pièce de théâtre, un film, voilà, où voilà, on est constamment en travaux. Et évidemment, on vit dans une sorte de maison constamment en ruine. Et on se moque un peu de ces gens qui essayent donc de tout le temps de réparer cette maison, qui se recassent, qui se fissurent de partout. Voilà, alors... J'ai envie de dire que le principal intérêt du film, si on est fan, c'est de voir Tom Hanks à ses débuts. Voilà. Mais sincèrement, c'est une comédie très agréable à regarder, mais qui s'oublie assez rapidement. Voilà, c'est pas le meilleur film de la salve. Moi, je vous conseille plutôt La Croix de Bellucci et évidemment revoir Les Cadavres ne portent pas de costard. Et puis après, il y a un film aussi qui est sorti chez Elephant de Film qui s'appelle Mad Dog and Glory. Mais on va en parler, là, on va en parler avec Damien. Et d'abord, on va commencer par Comme un oiseau sur la branche, plutôt le film de 90 qui lui est sorti chez Rimini. Film de John Badham avec Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine et Bill Duke.
Comme un oiseau sur la branche suit la vie de Rick, qui est protégé par le FBI après avoir dénoncé certaines personnes. Sauf que la situation va mal se passer pour lui, car ces personnes qu'il recherche vont effacer son dossier au FBI, vont réussir à le retrouver et vont commencer à le traquer. Donc le personnage principal est joué par Mel Gibson, qui retrouve ici un peu son rôle de comique de ce qu'il a dans L'Âme Fatale, avec un côté un peu plus... Non, tout aussi cascadeur. C'est un film très sympathique, qui mélange action, humour et même romance. C'est, pour reprendre ce que tu disais avec la télé en cube, c'est ce que j'ai connu durant mon enfance, et c'est un peu ce qu'on retrouve là, c'est-à-dire un bon film du dimanche. Et c'est intéressant justement de voir Mel... enfin retrouver finalement les différentes actions qu'il faisait dans L'Âme Fatale, mais cette fois en plus en solo, où on peut voir alors accompagné du personnage de Marianne qui l'accompagne un peu partout. C'est un film qui passe vite, qui est assez sympathique, mais qui est pas non plus grandiose. C'est pour ça que je dis que c'est juste un film du dimanche à regarder tranquillement.
Alors, ouais, enfin, c'est un film qui est pas grandiose, mais quand on y regarde de plus près, comparé à la production de l'époque, je trouve que c'est quand même un film qui est un peu au-dessus de la moyenne, quand même, malgré tout. Je vais te dire pourquoi. Bon, d'abord, s'il se fait rattraper, ce Rick, qui a un peu tête brûlée, effectivement, tu l'as très bien dit, on reprend sa personnalité, hein, il n'est pas suicidaire, par contre, mais voilà, un peu dingue comme ça, un peu feu follé, quoi, voilà, qu'il avait dans L'Arme Fatale. Et le couple qu'il forme avec Goldie Hawn, c'est à cause de Goldie Hawn, en fait, qu'il est retrouvé, parce qu'il a changé d'identité, il est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est l'amour de jeunesse de Goldie Hawn. Donc quand elle le retrouve, elle croit qu'il est mort. Elle redécouvre qu'il est vivant. Et évidemment, tout de suite, vu qu'il s'aimait de manière fusionnelle, et bien tout de suite, ça fait des étincelles. Et alors déjà, on peut admirer aussi... parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un buddy movie romantique. Et ça, c'est quelque chose qui... je pense que c'est la première fois que ça se pratique. Alors évidemment, John Badham a été un réalisateur super intéressant dans les années 80. Il était un réalisateur à suivre, on attendait beaucoup de lui, et petit à petit, il s'est devenu un réalisateur assez lambda, il faut bien le reconnaître. Mais en tout cas, il y a cette idée de buddy movie romantique que je trouve assez originale, et je trouve que l'alchimie, il faut le voir en VO, fonctionne vachement bien entre les deux, et je trouve que Goldie Hawn, qui donne quand même vachement de sa personne, elle n'est pas toute jeune, hein, quand elle fait le film, elle est plus proche de la cinquantaine, et lui aussi d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est intéressant, ce buddy movie romantique, mais avec des personnages qui ont déjà un certain âge. Et ça se voit à l'écran, je veux dire, c'est pas gommé, c'est pas, voilà, on voit que c'est pas des jeunes premiers, quoi, voilà. Et moi j'aime bien ce côté buddy movie romantique parce qu'il y a une tension. À un moment, il voit une vétérinaire, on devine, c'est John Severance qui joue cette vétérinaire. On devine que monsieur, parce qu'il a fait tous les boulots de la terre quand même, hein, voilà, comme il est témoin protégé, il est obligé de tout le temps changer de boulot, changer de ville.
Spécial dédicace à son travail de coiffeur.
Ah oui, ce coiffeur gay, personnage hyper cliché, évidemment. Par contre, il doit des sous à tout le monde, hein, parce qu'à chaque fois, il se barre comme un voleur. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que ça donne un côté sympathique. Puis il y a des choix de décor par moments qui sont assez réussis. Je pense au final qui se passe dans le zoo. Et puis moi, j'aime bien ce personnage de femme qui n'est pas une cruche, en fait. Donc, qui n'est pas à faire valoir des mecs. Et qui, à la fin, castagne aussi. Voilà. Alors, évidemment, on est dans les limites d'un blockbuster de l'époque, hein, quand même. Hein. Après, je dirais que le film, le seul vrai défaut du film, je trouve, moi, c'est qu'on a une étrange sensation quand on voit ce film. On a l'impression de voir un film des années 80 perdu au début des années 90. C'est-à-dire, on a l'impression, on se dit, ah, ce film date de 90. Je pensais qu'il datait de 85, tu vois, quand tu le vois au 87. Et du coup, voilà, ça donne un cachet un peu particulier. Autre film très particulier, par contre, parce que là, on parle de comédie, et c'est vrai que Comme un oiseau sur la branche, c'est quand même une manière un peu de renouveler la comédie. Et Mad Dog and Glory, alors là, on est dans autre chose, pour moi. Ce film de John McNaughton, qui s'était fait connaître auparavant pour Henry, Portrait of a Serial Killer, qui n'est pas vraiment un film pour enfants, on peut le dire comme ça, hein, tape dans l'œil de Scorsese. Scorsese décide de produire ce film, qui est un film très scorsésien, en fin de compte, et qui raconte l'histoire de Mad Dog, donc, qui est un flic un peu désabusé, comme ça, et qui croise un jour la route d'un truand qui lui sauve la vie. Et ce truand, qu'est-ce qu'il fait? Il lui file un cadeau. Ce cadeau, c'est Uma Thurman. Elle s'appelle donc Glory. Bon, il a du bol, quand même, hein. Mais ben, il se trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et puis le truand, il voudrait bien récupérer Uma Thurman, mais visiblement, Mad Dog n'est pas décidé à lui rendre. Et à partir de ce postulat tout simple, on a un des films, moi, je trouve, les plus originaux des années 90. Celui-là, il date de 93 et qui donc est disponible chez Elephant Film. Et ça, pour moi, c'est... Le revoir a été pour moi... j'avais bien aimé à l'époque, mais vraiment, c'était une révélation. Pour moi, en fait, c'est un excellent film, quoi.
Alors, pour moi... Pour moi, c'était une découverte et comme tu le dis, on change un peu de ton parce que là où, comme un oiseau sur la branche, on peut plus avoir de rire entendu très expressif. Ici, c'est un autre type d'humour qui va reposer un peu plus sur les situations et les interactions étranges qui vont se mettre en place. Du coup, le personnage principal, surnommé le flingueur joué par De Niro, n'est pas, comme tu l'as dit, un policier, mais seulement un photographe de la police qui revient souvent sur le fait. Il va sauver un chef d'une mafia qui se voit un peu comme comique et qui voit un peu MC parce que ça va pas vraiment bien, joué par Bill Murray, ce qui est assez incroyable pour le nommer. Et il y a un autre personnage au casting qui m'a surpris parce que je l'ai jamais vu dans un film, qui est David Caruso, qui est le grand, enfin l'icône des experts à Miami avec la célèbre scène où il retire constamment ses lunettes. Et donc dans ce film, c'est intéressant parce qu'on a toute justement l'étrangeté de la situation avec ce cadeau qui est fait à De Niro, qui sait pas vraiment quoi faire avec, et elle qui est obligée de rester en tant que cadeau parce qu'elle voit mal retourner voir le mafieux pour dire que finalement on a refusé le cadeau qui lui était fait. Et c'est intéressant dans l'évolution du personnage parce que De Niro joue quelqu'un en fait qui est un peu, enfin pas lâche, mais un personnage, pour reprendre Uma Thurman dans le film, romantique. C'est quelqu'un qui ne va pas vers violence en soi facilement et qui recherche plutôt la négociation, et c'est un truc qui lui est reproché durant tout le film. C'est un peu comme si on lui disait deviens un homme, deviens un homme, deviens un homme, et que De Niro se mettait la pression pour le devenir alors que c'est pas vraiment ce qu'il a envie de vivre. Et à travers ça, c'est pour ça que Caruso joue son pote policier castagneur assez remarquable et plutôt cool. Et face à lui, donc, dans ce duel de choc entre la mafia et la police, nous avons donc le photographe romantique versus le mafia blues qui voit sa psy, qui fait des blagues mais qui en soi ne sont pas vraiment drôles, et qui finalement continue de faire tourner son petit business de force, à vrai dire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la place de Uma Thurman dans tout ça, parce que finalement elle est un peu ballottée entre eux, et la question de son émancipation se pose, vu que il y a toute la négociation à travers le film justement pour essayer de savoir où est-ce qu'elle va finir. Et au final, c'est assez étrange que elle, enfin, on se doute durant un moment qu'elle a son mot à dire, mais au final, c'est jamais vraiment exprimé, c'est seulement sous-entendu.
Ce qui est vachement intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui, à la fois, On ne sait pas ce que c'est, en fait, ce film. Il démarre comme un polar, scène en noir et blanc. Y a Richard Price, quand même, qui est derrière, hein, scénariste de Kiss of Death, tout ça. Enfin bon, Kiss of Death, d'ailleurs, Schroeder, Barbet Schroeder, avec Caruso. Parce que Caruso, David Caruso, il a eu un début de carrière. Il sortait des séries télé, New York Police Blues, surtout, qui était une immense série télé à l'époque, qui a révolutionné les séries télé. Et là, on dit Caruso, c'est un putain d'acteur, quoi. Il va faire une carrière de fou. Et il commence à tourner chez Ferrara, je ne sais plus quel Ferrara, je crois que c'est King of New York. Il se retrouve dans Kiss of Death de Schroeder. Et on se dit, c'est le début d'une grande carrière. En fait, il ne fera jamais carrière, il va retourner à la télé. Et pourtant, c'est un super acteur. Voilà, c'est l'ostracisme anti-roux. Je ne peux pas comprendre autrement qu'un acteur aussi talentueux ne fasse pas une carrière à la hauteur de son talent. Et le film donc a une ouverture à la noir et blanc, comme ça, justement, pas à la Scorsese, évidemment, on sent la patte du producteur. Et puis tout à coup, on bascule dans autre chose. Voilà, au début, on va dire un truc genre à la Cloakers de Spike Lee aussi. Voilà, et puis là, on bascule après dans autre chose, complètement autre chose. Et le film, c'est à la fois une comédie romantique, mais ratée. Mais le film n'est pas raté, hein, mais je veux dire, c'est une comédie romantique avortée, on va dire plutôt. Voilà. C'est à la fois un buddy movie aussi avorté, puisque c'est presque un triangle amoureux sans l'être. Parce qu'il n'est jamais vraiment question d'attirance homosexuelle entre les deux, mais plutôt d'une sorte d'amitié virile. En fait, il est un peu fasciné, De Niro, par ce personnage de mafieux. Bill Murray est génial en même temps, hein, avec sa tête de chien battue. Là, voilà, il n'y a que lui qui peut jouer comme ça, mais qui en fait aussi peut se révéler totalement violent. C'est un chef mafieux quand même, faut pas l'oublier. Et puis Bill Murray, il est fabuleux. Enfin, De Niro est génial comme d'habitude, mais Bill Murray est incroyable. Enfin, il est, c'est que ça, tu l'as très bien dit. Ça, c'est Mafia Blues avant Mafia Blues, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments de ce film qu'on va retrouver dans Mafia Blues, quoi. Voilà. Il est comme ça, tu l'as dit, il fait de l'humour, c'est un stand-upper pas drôle en fait, quoi. Voilà, gros, c'est le Gad Elmaleh de la mafia, quoi. Voilà, donc c'est énorme, quoi. Enfin, et les deux hommes, ils sont un peu attirés l'un par l'autre dans le sens amitié, quoi. Voilà, il y a une sorte. Murray aimerait bien avoir un ami normal, en fait. Et le final, d'ailleurs, c'est une belle preuve d'amitié, la manière dont le film finit, même si ça finit de manière très particulière. Là encore, quelque chose d'avorté. C'est-à-dire, on s'attend à un climax, et à un moment, le climax retombe comme un soufflet qu'on aurait sorti trop tôt du four. Voilà, c'est assez étrange. Et tu l'as dit, Uma Thurman, elle illumine le film comme ça. Son personnage est assez particulier, parce qu'on pourrait croire que c'est un personnage soumis, c'est pas le cas. Puisque c'est elle qui tranche aussi. Du coup, ça devient très, très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est un film qui n'est jamais vraiment dans la parodie, mais qui est presque une parodie. Et puis, c'est un grand film sur des losers. C'est un film avec un rythme très particulier. C'est un film absolument unique. Et c'est un film très tendre aussi. Il aime ses personnages. Voilà. Et ça, dans la comédie, puis en général, c'est très important d'aimer ses personnages. Et je pense qu'on ne l'a pas dit assez. C'est un film très sophistiqué. Et... John McNaughton, j'ai un énorme regret, c'est-à-dire qu'il a fait Henry, Portrait of a Serial Killer, il a fait The Borrower, qui était très intéressant, il a fait ce film qui est très intéressant, et puis, il fait de la télé, il fait de la bonne télé d'ailleurs, puis petit à petit, son talent va se déliter comme ça, il ne retrouvera plus jamais d'écrin pour son talent, et il va disparaître, et ça c'est un drame, voilà, c'est un drame dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'un réalisateur aussi prometteur, du jour au lendemain, disparaissent totalement des écrans de cinéma. Et donc, on a envie de vous conseiller de vous jeter sur ce film édité par Elephant Film, Mad Dog and Glory, qu'on vous conseille vivement, et qu'on a mis, nous, dans la case comédie, parce que c'est à la fois une comédie, mais pas que, c'est un peu plein de choses à la fois.
Non, et comme tu disais, il y a un rythme assez particulier, justement, qui œuvre entre « on se pose », bah, en fait, ce moment posé, ça développe un peu à la fois le côté loser, comme tu l'as dit, de Bill Murray et celui de Niro. Et des fois, De Niro, justement, qui est en quête de devenir un héros, entre guillemets, va accélérer de film d'un coup, mais va retomber, vu que c'est un peu l'idée du film, des montées et des retombées. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, parce qu'elle m'a fait penser à un autre loser, qui est Bill Murray, quand il dit à un moment, en parlant à De Niro, « Ah, les femmes... on peut ni vivre avec, ni les tuer. » Et ben, ça m'a rappelé étrangement ce que dit Orelsan dans son film. Donc Orelsan, rappeur grand loser, qui dit de manière différente, mais assez drôle. Ah, les femmes, ça supporte un accouchement, mais pas une remarque.
Bah, tu l'as dit, deux losers, mais c'est plus que des losers, c'est plus des types désabusés, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, De Niro, il est revenu de tout. Voilà, que, voilà il fait son métier un peu sans trop y croire. Et que Bill Murray, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il dirige là, un clan mafieux, mais qu'en fait, il s'ennuie, quoi. Voilà, c'est un grand film sur l'ennui aussi. Hein.
Mais c'est pour ça que De Niro est essentiel à Bill Murray, parce qu'au début du film, quand il le sauve, après, Bill Murray lui dit « Je vais réaliser tes vœux, je vais réaliser tes vœux ». Et en fait, ça participe à la tension du film, vu qu'au final, Bill Murray réalise le vœu de De Niro, mais il ne pensait pas que réaliser le vœu... En fait, je pense qu'il pensait que réaliser son vœu, ça allait faire de lui son héros, du coup son idole, et qu'il allait avoir un ami, alors que finalement, réaliser son vœu, ça conduit à tout l'affrontement qu'il y a au travers.
Et oui, un affrontement un peu particulier qui conclut donc ce très bon film, ce film vraiment singulier, Mad Dog and Glory de John McNaughton.
Old black magic has me in its spell.
Old black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught on a tide.
I should stay away, but what can I do?
Put out the fire! For you're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Me. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Ah, in a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love. In a spin, love in a spin I'm in.